Chapitre 32. Cette entrevue avait eu lieu, une heure peut-être, après que M. Ledoiré avait supplié Mme Ettlinger de l'entendre. En quittant l'étude, Annie et son beau-fils avaient déjeuné dans un restaurant voisin de la rue Saint-Georges. Ils étaient ensuite descendus à pied jusqu'à l'opéra. Beaucoup de gens étaient déjà partis en vacances. C'est pourquoi Annie avait alors proposé à son beau-fils de passer l'après-midi dans un cinéma. Puis ils avaient goûté. Au cours de ces quelques heures, il n'avait pas été fait allusion une seule fois à ce qui s'était passé. Madame Ettlinger avait paru réellement heureuse en la compagnie de Jean-Noël. Quant à celui-ci, si de temps en temps il avait senti son cœur se serrer en pensant à Odile, il n'en avait pas moins été tout joyeux. L'attitude qu'avait eue sa belle-mère dans la matinée montrait qu'elle était indépendante. C'était la première fois qu'au lieu de prendre congé de lui, comme elle en avait l'habitude quand elle avait une préoccupation, elle restait avec lui. Il était 6 heures lorsqu'ils décidèrent de rentrer à l'hôtel. « Si Odile est venue en notre absence, que me conseilles-tu de faire ?» demanda Jean-Noël. « Je t'en prie, ne me pose pas de semblables questions. » Jean-Noël n'avait pas appréhendé en vain que sa femme ne tentât de le revoir. Quand il passa devant le bureau de l'hôtel, un employé lui remit une lettre écrite au crayon. Odile disait à son mari qu'elle reviendrait vers 5 heures, qu'elle était déjà venue 2 fois inutilement. Elle le priait de l'attendre. « La dame qui vous a remis ce mot n'est pas encore revenue, n'est-ce pas ?» demanda Jean-Noël en s'apercevant qu'il était plus de 6 heures. « Peut-être Odile avait-elle changé d'avis. »« Veux-tu lire cette lettre ?» fit Jean-Noël en l'attendant à sa belle-mère. Elle la prit, puis la rendit aussitôt à son beau-fils. « Cette lettre est très gentille, » dit-elle, comme si elle l'avait déjà lue. Sur le même ton indifférent, elle ajouta « Je vais monter dans ma chambre. Veux-tu que nous nous retrouvions ici dans 20 minutes ?» Resté seul, Jean-Noël relut le mot de sa femme. Puis, s'adressant de nouveau au portier qui le lui avait remis, il tâcha de savoir si Odile avait paru émue. Il apprit ainsi qu'elle n'était pas venue seule, quand monsieur, paraissant être son père, l'avait accompagnée, que tous deux étaient demeurés plus d'une heure dans le hall. Il s'apprêtait à monter à son tour dans sa chambre. Il avait déjà gravi quelques marches lorsqu'il s'entendit appeler. Il se retourna. Il vit le portier lever une sorte de couvercle pour sortir de son bureau et lui désigner le tambour. Un chasseur, que Jean-Noël n'avait pas remarqué mais qui avait sans doute tout entendu, lui cria « Voilà la personne qui vous a demandé !» Quelques secondes après, M. Wurzel entrait seul dans l'hôtel. « Odile n'est pas avec vous ?» demanda Jean-Noël comme s'il était déçu. « Si, si, accompagnez-moi » Il entraîna Jean-Noël dehors. Un taxi fermé était arrêté devant l'hôtel. « Elle est dans ce taxi ?»« Oui, mais je veux vous parler d'abord. » M. Wurzel ne quittait pas des yeux son gendre. Quand il avait appris sa conduite, au lieu de triompher, il n'avait vu que la douleur de sa fille. Tout de suite, sans comprendre qu'une réconciliation ne pouvait venir que des épouses eux-mêmes, il avait voulu s'interposer avec son expérience et son habileté, malgré la volonté d'Odile. Mais dès qu'il avait été en présence de Jean-Noël, il avait senti que ses efforts seraient inutiles. C'est pourquoi il n'osait détacher son regard du jeune homme, un peu comme de 2 animaux, le plus faible. « Que s'est-il donc passé ? » demanda-t-il. Jean-Noël ne répondit pas. Il courut au taxi, non sans songer que si Annie était à sa fenêtre, elle le voyait, ouvrit la portière. Odile était assise dans un coin. Il monta près d'elle. « Qu'est-ce que tu fais, Jean-Noël? Tu as vu dans quel état est mon père ?» dit-elle, comme si son mari partageait son opinion sur l'intervention de M. Wurzel et que, comme elle, il la trouvait ridicule. M. Wurzel, qui s'était approché du taxi, dit au chauffeur « Rue de Babylone !» Au même instant, Jean-Noël sauta à terre. Odile l'imita. « Votre acte est absolument incompréhensible !» s'écria M. Wurzel, malgré les efforts que faisait sa fille pour l'empêcher de parler. Jean-Noël dit alors que sa belle-mère, depuis la mort de M. Villemur, était seule, que son devoir était de rester près d'elle. Elle l'avait élevée. Il n'avait pas le droit, le jour où elle avait besoin de lui, de se dérober. Ces explications mirent M. Wurzel hors de lui. « Vous vous conduisez d'une manière inqualifiable. Je ne peux pas croire que votre belle-mère soit au courant de votre conduite et l'accepte. »« Je t'en prie, papa, laisse-nous !» Sans s'en apercevoir, par simple contenance, ils étaient entrés dans l'hôtel. Ce fut à ce moment qu'Annie parut. « Je ne peux croire, madame, » répéta M. Wurzel, mais à voix basse, de manière à ne pas être entendu par les clients et le personnel de l'hôtel, « que vous puissiez approuver votre beau-fils. »«
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » répondit Annie à haute voix.
« Partons, partons !» supplia Odile. M. Wurzel ne tint aucun compte de la prière de sa fille. Irrité de ce que Mme Ettlinger, bien qu'elle fût à Jean-Noël ce qu'il était à Odile, le traitât en homme de notre âge, il s'efforça de lui faire comprendre qu'elle était en partie responsable de ce qui était arrivé, cela en dépit des interruptions de Jean-Noël, qui croyait gagner ainsi la sympathie de sa belle-mère, à tort d'ailleurs, car elle le priait chaque fois de laisser terminer son interlocuteur. Lorsque M. Wurzel se tut, Annie, en personne qui a suffisamment fait preuve de patience pour qu'on la laisse parler à son tour, fit remarquer à M. Wurzel qu'elle n'était pas à la place de son beau-fils, que celui-ci était en âge de se conduire seul. Jusqu'à la mort de M. Villemur, elle avait fait tout ce qu'elle avait pu pour lui inculquer le respect du travail et de l'honnêteté. À présent, c'était à sa conscience seule que Jean-Noël devait obéir. Il était devenu un homme. Même en admettant qu'elle eût toujours sur lui une certaine influence, elle se garderait bien de s'en servir, car elle ne se reconnaissait plus le droit de modifier en quoi que ce fût une personnalité déjà formée.
« Cela n'empêche pas que c'est à cause de vous que mon mari est parti !» s'écria Odile. « Il vient de nous le dire lui-même, et vous le savez très bien !»
Madame Ettlinger eut un sourire, à la fois désabusé et satisfait, d'une femme connaissant son charme, mais feignant de croire qu'on le surestime. Elle se tourna vers son beau-fils.
« Je t'en prie, Jean-Noël, explique-toi. Tu vois bien que tu me mets dans une situation désagréable. »
En s'adressant tour à tour à M. Wurzel et à Odile, sur un ton de sincérité qui lui faisait terminer chacune de ses phrases par des « n'est-ce pas ?» ou des « qu'en pensez-vous » Jean-Noël donna toutes les raisons qu'il put trouver à son désir de reprendre son indépendance, sauf la vraie, Annie. L'idéal de chacun est différent. Ce n'est qu'autour de la trentaine qu'il se révèle. Le sien était, justement, le contraire de ce qu'il avait cru. Il était plus fait pour la lutte, l'imprévu, que pour la vie prudente et quiète du mariage. Cependant qu'il parlait, Odile le regardait de cet air incrédule qu'ont les femmes lorsque l'homme dont elles connaissent toutes les faiblesses s'efforce de s'élever.
« Voyons, Jean-Noël, comment peux-tu me parler ainsi à moi ?»
Cette exclamation fut si sincère que Jean-Noël rougit. Annie n'allait-elle pas croire, comme Odile, qu'il n'était qu'un comédien ?«
Je te parle ainsi parce que c'est la vérité. » répondit-il en regardant sa belle-mère. Elle s'était approchée de M. Wurzel.
« Ne croyez-vous pas, dit Annie à celui-ci, que nous devrions les laisser seuls ? Ils se réconcilieraient beaucoup plus vite. »
« Tu as raison, Odile, dit M. Wurzel. Il vaut bien mieux que nous partions. »
Madame Ettlinger, en faisant montre d'optimisme, à un moment où une réconciliation semblait justement impossible, lui était apparue d'un esprit si superficiel, d'un cœur si sec, qu'il avait préféré en finir tout de suite.
« Il est extraordinaire, observa Annie dès qu'elle fut seule avec son beau-fils, qu'au cours de mon existence entière, j'ai toujours été regardée comme responsable de ce qui arrivait de fâcheux à mon entourage. »
Le lendemain, Odile revint, seule cette fois. Le surlendemain, M. Ledoiré fit de même. Au désagrément de ses visites s'ajoutèrent dans les jours qui suivirent ceux des démarches qu'Annie dut faire chez son frère Henri et chez Maître Grimbert. Une semaine s'écoula ainsi. Madame Ettlinger,
qui, jadis, à la moindre contrariété, s'en prenait à son beau-fils, le traitait comme un ami. Il ne s'en réjouissait pourtant pas entièrement, car il avait l'impression que cette confiance était plus causée par le désir qu'avait sa belle-mère de lui montrer qu'elle le considérait comme un homme que par de l'affection. De temps à autre, elle lui parlait de sa famille, disant de celle-ci plus de mal qu'elle n'en avait jamais dit de Madame Mercier et d'Émile. Un matin, elle tendit à Jean-Noël une lettre de Madame Villemur, où celle-ci, sans faire la moindre allusion à Henri, suppliait sa fille de venir vivre près d'elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Jean-Noël avec anxiété. Madame Etlinger se mit à rire. « Tu ne l'as pas deviné ?» Si son père avait été encore en vie, la question ne se fût pas posée. Mais retourner aujourd'hui, avenue de Malakoff, au milieu d'une famille qui ne comprenait rien à son caractère, autant renoncer à tout ce que la vie avait de généreuse et de noble. Le lendemain, elle reçut une lettre de Maître Grimbert. Il lui demandait de passer à l'étude le lundi suivant pour y rencontrer son frère. Le différend qui s'était élevé entre Annie et Henri était aplani. Elle n'en manifesta aucune joie. Elle trouva même étrange que le notaire lui eût écrit, un peu comme s'il lui avait annoncé une bonne nouvelle. Lorsque le jour de ce rendez-vous arriva, Jean-Noël fut surpris de l'insistance que mit Annie à ceux qui l'accompagna. Tous deux se rendirent donc rue Saint-Georges. « J'aimerais mieux t'attendre ici, » dit Jean-Noël une fois arrivé devant l'étude, et bien qu'au fond, il mourut d'envie de rester avec sa belle-mère. Au cours de la première visite qu'il avait faite à Maître Grimbert, il avait été froissé par l'accueil du notaire qu'il avait trouvé trop froid. Madame Etlinger insista de nouveau. Il pourrait sembler étrange qu'Annie ne se déplaçât plus sans son beau-fils. La raison en était pourtant bien simple. Seul, sans autre but que de faire de la peinture, ayant eu d'autre part à souffrir toute sa vie de sa famille, ayant été accusée par tout le monde de manquer de cœur, elle éprouvait le besoin de se justifier à ses propres yeux. En conduisant Jean-Noël chez les siens, partout où elle savait que la présence du jeune homme surprenait, en même temps qu'elle affirmait son indépendance, elle se prouvait à elle-même qu'elle n'était pas aussi dure qu'on le disait. L'entretien fut cordial, bien que, comme la première fois, personne ne portât la moindre attention à son compagnon. Elle s'en aperçut. À différentes reprises, elle se tourna ostensiblement vers son beau-fils pour lui demander un conseil, ce qui le faisait rougir et balbutier. À la suite de cette visite, Annie songea enfin à organiser sa vie. Elle retournerait à son atelier, car, comme elle le disait, l'inaction la fatiguait. Mais elle se garda bien de demander à Jean-Noël ce qu'il comptait faire. Il sentit cependant que, si sa belle-mère ne l'interrogeait pas, elle n'en était pas moins curieuse de le savoir. « Je vais terminer mon droit, » dit-il. « Très bien. » Ce fut la seule réponse de Madame Etlinger. Le jour même, ils se rendirent rue Boissonnade. Annie avait décidé que, si c'était possible, elle habiterait dans son atelier, cependant qu'on tâcherait de trouver une chambre pour Jean-Noël, soit dans la même maison, soit dans une pension ou dans un hôtel voisin. Il était au comble du bonheur. Cette vie qu'il allait mener aux côtés de sa belle-mère, c'était celle dont il avait toujours rêvé. Tout ce qu'Annie lui dirait de faire, il le ferait. La seule chose qui l'inquiétait, c'était cette somme d'argent qu'il devait verser chaque mois à Marguerite. Il ne voyait pas très bien où il la trouverait. La demander à sa belle-mère lui paraissait impossible. N'ignorait-elle pas jusqu'à l'existence de cette charge ? La concierge avait la clé de l'atelier. Elle n'était pas dans sa loge. Annie alla la chercher elle-même au fond de la cour, bien que Jean-Noël se fût offert de le faire. Il la suivit à quelques pas de distance. Ce fut avec cette amabilité que ne manquent jamais de témoigner les petites gens à une personne qui, bien que d'une condition supérieure à la leur et simple et modeste, que la concierge accueillit Madame Etlinger. Elle appela même son mari pour qu'il se hâtât de venir saluer la revenante. Il arriva la casquette à la main, s'inclina, mais quoique moins bavard que sa femme, on sentait au regard qu'il jetait alternativement sur celle-ci et sur sa locataire, qu'il était, lui aussi, plein de respect et de dévouement. Annie fit signe à Jean-Noël de s'approcher. « Je ne reviens pas seule, » dit-elle, « je reviens avec mon beau-fils. » « Nous connaissons, monsieur, répondit la concierge. Nous l'avons vu plusieurs fois avant votre départ. » Jean-Noël n'avait jamais prêté attention à ses concierges. Il le regretta. « Je veux vous demander, continua Annie, si vous n'avez pas l'adresse d'une chambre pour mon beau-fils. Il y a l'atelier du monsieur du rez-de-chaussée. Il doit justement partir. » « Non, non, mon beau-fils n'a pas besoin d'un atelier. D'ailleurs, ce serait trop cher. Ce que nous voulons, c'est une simple chambre meublée. L'atelier de ce monsieur est beaucoup trop grand. »« Je comprends, madame, » dit la concierge. Jean-Noël avait rougi légèrement. Cette conversation lui était désagréable. Il ne comprenait pas que sa belle-mère pût se faire passer, sinon pour pauvre, du moins pour regardante, auprès de gens dont l'amabilité avait pour cause la fortune justement. « Tu n'as qu'à demander à Madame Devineuse, » dit le concierge à sa femme. « Elle loue des chambres. » Puis, s'adressant à Annie, « Voulez-vous, madame, que j'aille la voir ?» La maison où se trouvait l'atelier de Madame Ettlinger était construite d'une manière bizarre. La façade sur la rue ressemblait un peu à celle d'une ferme. Dès qu'on entrait, on se trouvait dans une vaste cour, sur un côté de laquelle étaient disposés les ateliers et où, avant la guerre, lorsqu'elle fréquentait les peintres du quartier, Annie se souvenait d'avoir vu des poules. Mais à droite se dressait une maison de 4 étages, invisible de la rue, isolée comme une villa à laquelle conduisait un chemin de galets et dont l'entrée, comme celle d'une manutention, se trouvait au 1er étage. 2 escaliers de ciment plaqués contre la maison, partant l'un de gauche, l'autre de droite, se rejoignaient devant cette entrée pour former une sorte de plateforme. « Ces chambres sont peut-être très chères, » dit Annie à la concierge, cependant que le mari allait au renseignement. « Je ne crois pas, madame. Nous verrons. Quand votre mari reviendra, dites-lui de venir me trouver. » Accompagnée de son beau-fils, elle gravit l'escalier de planches qui conduisait à son atelier. Une épaisse poussière couvrait les meubles. Au mur, on apercevait une palette barbouillée de couleurs desséchées, ainsi que des toiles d'araignées. Dans cette vaste pièce, où il y avait des malles, où les tiroirs étaient fermés, Jean-Noël éprouvait ce même sentiment qu'il avait déjà éprouvé lorsqu'il était arrivé seul avec sa belle-mère à Nice. Comme ce jour-là, il lui semblait qu'il n'y avait rien au monde qu'Annie. Elle posa son sac, ouvrit la porte-fenêtre qui donnait sur un petit balcon de bois. Malgré la poussière qui volait au soleil, malgré la chaleur étouffante, Jean-Noël regardait tout ce qui l'entourait avec amour. Dans cet atelier sans confort, semblable presque à un hangar, et où il reconnaissait certains objets qu'il avait toujours vus et qui, pour cette raison, avaient une valeur immense à ses yeux, il lui semblait qu'à partir de cette minute, il n'aurait plus aucun souci, qu'Annie et lui ne se quitteraient plus, qu'ils vivraient chacun pour soi et quand même unis, loin du monde et heureux. « Je ferai mettre ici un rideau, » dit Madame Ettlinger. « De cette façon, tu auras ton petit coin à toi où tu pourras travailler quand tu en auras envie. » À ce moment, on frappa à la porte. C'était le concierge. « Entrez, entrez donc, monsieur Gabin, » dit Annie. « Eh bien, avez-vous vu cette dame ?» Le concierge répondit que celle-ci avait justement une chambre, ce qui ne lui arrivait jamais, que cet événement était dû au fait que la jeune Allemande qu'il avait retenue avait perdu un parent. Mais Madame Devineuse avait plus de demandes qu'elle n'en voulait. Il fallait donc aller la voir tout de suite. « Et de quel prix est cette chambre ?» demanda Annie. « 350 francs par mois. »« Presque aussi cher que mon atelier. » « Oui, mais cette chambre est meublée. » Madame Ettlinger dit qu'elle allait réfléchir et comme le concierge lui faisait remarquer que, quand elle se déciderait, il serait peut-être trop tard, elle répondit que dans ce cas, cela ne ferait rien et qu'elle trouverait autre chose, moins cher. Lorsqu'ils eurent déjeuné dans une petite crèmerie de la rue Campagne Première, Madame Ettlinger et son beau-fils allèrent visiter les hôtels voisins, mais les prix étaient ou les mêmes ou plus élevés que celui de la chambre de Madame Devineuse. « Je crois, dit Annie, qu'il faudra que tu prennes à la chambre dont nous a parlé le concierge. » Jean-Noël acquiesça sans enthousiasme. Il avait déjeuné du bout des lèvres et depuis il gardait le silence alors que le matin il avait été plein de gaieté. La raison de ce changement provenait de ce qu'il s'était subitement aperçu qu'Annie se souciait plus des frais qu'il lui occasionnerait que de son bien-être et de sa santé. De ceci, il se fût pourtant moqué si sa belle-mère avait eu des ennuis d'argent. Il lui était égal, du moment qu'il était près d'elle, de loger et de prendre ses repas n'importe où. Mais ce qui lui paraissait incompréhensible, c'était que Mme Ettlinger se montrât si regardante au moment même où son conflit avec sa famille avait été aplani. Pourquoi avait-elle alors conduit Jean-Noël chez Maître Grimbert? Était-ce naturel, de la part d'une femme qui, toute sa vie, avait été généreuse, de marchander 50 francs sur une location? Cela ne pouvait s'expliquer que par une brusque méfiance à l'égard de Jean-Noël. Annie n'avait-elle pas toujours craint qu'on ne l'aimât que pour sa fortune? Rue Boissonnade, Mme Ettlinger, qui feignait de ne pas s'apercevoir du changement de son beau-fils, demanda au concierge si on pouvait visiter tout de suite la chambre de Mme de Vineuse. Il la conduisit, ainsi que Jean-Noël, chez cette dame. Celle-ci se trouvait dans l'habituelle situation des gens qui sous-louent des chambres. Elle était veuve, elle avait eu des revers de fortune. C'était bien malgré elle qu'elle se livrait à ce petit commerce. Ceci posé, au cours d'une conversation qui eut lieu dans le salon et à laquelle Annie avait paru prendre un grand intérêt, Mme de Vineuse passa à son nouveau rôle qu'elle remplit mieux qu'elle ne l'avait laissé entendre. « Cette chambre, dit-elle en ouvrant la porte, un peu comme un sculpteur découvrant une de ses œuvres, était celle de mon fils. Depuis son admission à l'école navale de Toulon, il ne l'habite plus. » Mme Ettlinger et son beau-fils jetèrent un rapide coup d'œil sur la pièce. Elle était modeste, propre, pleine de souvenirs. En redescendant, Jean-Noël, à qui cette chambre avait paru sinistre, retrouva ce qu'il aimait chez sa belle-mère. La porte à peine refermée, Annie s'était mise à rire, en se retenant pour ne pas être entendue. « Non, non, dit-elle, cela n'est pas possible. Je ne te vois pas vivre chez Mme de Vineuse. Nous allons visiter l'atelier du rez-de-chaussée. C'est vraiment trop lugubre là-haut. » Jean-Noël fut tellement ému par ce changement que cette même chambre, où il aurait vécu la mort dans l'âme une minute plus tôt, lui parut si belle qu'à force d'insister, il obtint d'Annie la permission de la louer.